Sororité, substantif féminin du latin soror, sœur, en latin médiéval désignait une communauté religieuse de femmes. Rabelais l'a fait sortir de l'enceinte du couvent après le XVIe siècle. Le mot sororité devient une communauté de femmes ayant une relation, des liens, qualité, état de sœur, hors de la loi et la famille, hors de toute hiérarchie et même sans droit d'aînesse. Une relation, des liens, un mot plutôt joli, quatre syllabes rondes, souriantes, qui encerclent, susurrent la possibilité d'une union féministe en milieu naturel. Dès le XVIe siècle, la langue le permettait. Puis, le terme a disparu totalement de l'usage. Après le XVIIe siècle, ça a duré longtemps. On se demande bien pourquoi. Lorsqu'un mot disparaît de l'usage, c'est que plus personne n'en a l'usage, souvent parce qu'il désigne quelque chose qui n'existe plus. Est-ce qu'un mot garde son sens quand tout ce qu'il désigne est devenu obsolète? Est-ce qu'un mot a sa place quand tout le monde le défend mais que personne ne le ressent, ne l'applique ni ne l'utilise? C'est quand même une question qu'il est sain de se poser. Sororité, substantif féminin du latin soror, sœur, tout comme le mot fraternité est tiré du latin frater. Tandis que le mot fraternité connaît un succès retentissant, sororité, depuis des siècles, a été jetée aux orties, peut-être même enfouie profondément sous terre, exprès, le plus profond possible. Sororité fossilisée de la roche, un petit caillou, une boule végétale, mais si sèche, des syllabes qui semblent étrangères et parfaitement inanimées. Sororité, le mot dort sous terre, on le croit mort, il va se réveiller. Chloé Delhomme, mes bien chères sœurs, 2019.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui porte haut les couleurs de la sororité. En juin dernier, vous vous souvenez, paraissait Soror, projet réalisé aux côtés de Vita et de Camélia Jordana, de quoi préparer le terrain pour son 7e album Vivante, qui vient tout juste de sortir vendredi. Du R&B, du flow, de la voix, de l'émotion, évidemment. Bonjour Amel Bent.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Avant toute chose, qu'est-ce que ça veut dire être sœur pour vous?
Moi, je me suis appuyée toute ma vie sur des femmes. Je me suis construite à travers des femmes et pour des femmes, pour les rendre fières, pour les rendre fortes. Et si force il y a en moi, elles me viennent de femmes. J'ai évolué comme ça depuis toujours, mais ça fait pas longtemps que j'appelle ça sororité.
Je pense tout de suite à votre mère, Amel Bent, que vous évoquez dès les premières secondes du titre Vivante. Quel modèle est-ce qu'elle a pu être, votre mère?
Bah, forcément un modèle de résilience avant tout. Je crois que grâce à elle, j'ai toujours pensé que je serais toujours debout. Enfin, j'ai jamais vu de faille chez cette femme qui est ma maman. Je l'ai vue triste, je l'ai vue souffrir, je l'ai vue pleurer, mais je l'ai toujours vue debout. Donc en fait, j'ai jamais imaginé la possibilité de ne pas me relever. Et ça, je crois que c'est un très beau cadeau.
Vous dites qu'avec elle, vous faisiez le tour du monde sans jamais changer de ville. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Plusieurs choses. Il y a à la fois forcément la notion de pauvreté, hein. Quand on peut pas voyager, on se débrouille pour le faire à sa manière. Elle m'a fait voyager à sa manière, par ses histoires, par ses rencontres, par ses rêves, par sa musique, par ce qu'elle écoutait.
Triste est la mélodie, je viens de loin, si tu savais. En quoi cette enfance vécue dans des conditions plus que précaires a-t-elle fait de vous celle que vous êtes devenue aujourd'hui, Amel Bent?
Je crois que j'ai appris les choses essentielles. C'est souvent le cas, hein. D'ailleurs, quand j'entends parler des enfants de familles très modestes, ça revient souvent, puisque forcément, on va trouver de la richesse ailleurs que dans l'accumulation, dans les biens, dans le matériel.
Le courage aussi.
Forcément, le courage, et puis même la richesse de l'autre. J'ai tout de suite compris que dans les rencontres, dans l'échange, dans la communication, dans la curiosité de vivre, j'allais me sentir riche tout le temps.
Et vos rêves à vous, c'était quoi quand vous étiez petite?
Le premier, je pense que ça a été de c'est bizarre ce que je vais dire comme mot, mais de sauver maman. J'avais envie de lui changer sa vie. J'ai mis du temps à penser à moi. Je pense que quand on est petit, on a l'impuissance de l'enfance. On sent qu'on n'a pas vraiment de champ d'action pour changer les choses. Et je me disais, un jour, quand je grandirai, je changerai sa vie.
Pourtant, ça vous est arrivé de temps en temps de penser que vous ne vous en sortiriez pas?
Je suis assez partagée sur cette notion parce que je suis quelqu'un de très 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 mélancolique. J'ai facilement le spleen. Je peux facilement me laisser dépasser par des sentiments très négatifs.
Oui.
Mais à la fois, j'ai vraiment une force en moi.
Oui, c'est ça. Comment on fait pour continuer à y croire, pour aller jusqu'au bout, pour reprendre le titre d'une des chansons de Vivante?
Il faut être dans l'action. Je crois que c'est aussi un cadeau que m'a laissé ma maman, c'est que je l'ai toujours vue très active. Et je crois que dans l'action, quand on agit, on peut changer les choses.
Vous vous souvenez de ce qui vous a poussé à candidater pour la Nouvelle Star?
Ouais, j'avais envie de changer la vie. En fait, pour moi, déjà, c'est sûr, je peux vous dire tout de suite ce qui ne m'a pas motivée. Moi, je voulais pas être une star. Je voulais pas être riche. Je voulais pas être connue. Moi, je voulais qu'on m'entende. Je voulais raconter mes histoires. Je voulais raconter. Je voulais partager des choses avec les gens, un maximum de gens.
C'était un micro, en fait, un micro ouvert.
Ouais. Et puis, je voulais amener du soleil dans notre vie, dans la vie de ma petite famille à moi, c'est-à-dire ma mère, mes frères et sœurs.
Est-ce que ce soleil, il était trop éblouissant? Ça a été violent de se retrouver dans la lumière aussi brusquement?
La chance que j'ai, même si ça a été une période très éprouvante, justement, ce passage d'Amel Bachir à Amel Bent, la chance que j'ai eue, c'est que je vivais pas dans l'ère qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire l'ère des réseaux sociaux, oui. Où on a un retour comme ça un peu violent de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on dit. On était quand même assez protégés finalement par le manque de communication, c'est-à-dire que si un truc tu l'as pas vu à la télé ou dans un magazine, t'es même pas au courant.
La Nouvelle Star, c'était en 2004, il y a 17 ans, Amel Bent, et depuis, il y a 7 albums, plusieurs chansons que certains membres de l'équipe de Boomerang connaissent par cœur, à commencer par la personne qui est juste en face de vous, Amel Bent, en quelques titres, il faut quand même le rappeler. C'est d'abord une philosophie coécrite avec Diams. Ce sont des larmes qu'on ne retient pas. C'est ça aussi avec Diams, encore elle. C'est ça aussi.
Ma tête est fatiguée. Comment te pardonner? Ma vie t'appartenait, mais je ne sais plus qui tu es.
Et puis une autre avec un frère, cette fois le jeune Attic.
Fatigué d'être la seule à dire je t'aime. Je me demande si un jour tu le diras. Mais mon cœur est accroché à tes lèvres. Dis-le-moi.
Puis une dernière, on peut plus s'arrêter, hein, avec deux de vos sœurs, Vita et Camélia Jordana, quand vous repreniez Diams, toujours elle.
Marine, t'as un prénom si tendre, un vrai prénom d'ange, dis-moi ce qui te prend.
Marine, on ne sera jamais amis parce que ma mère est française et que je ne suis pas née ici.
Marine, regarde, nous on est beau, on vient des quatre coins du monde, mais pour toi on est trop.
Ma haine est immense quand je pense à ton père, il prône la guerre quand nous voulons la paix.
On parlait de sœur, Amel Bent, quelle sœur est-ce qu'elle a été, Diams?
Une grande sœur exemplaire, puisque moi en fait c'est une des premières, peut-être la première personne que je rencontre quand je fais mon premier album et que je fais mes premières chansons. Et en vrai, avec du recul, si j'étais pas tombée sur elle, sur sa plume, sur son humanité, sur sa... la capacité qu'elle a à inspirer aussi, très inspirante.
Mais en quoi est-ce qu'elle vous accompagne encore aujourd'hui musicalement?
Elle a laissé des chefs-d'œuvre. Des chefs-d'œuvre de réalisme, de beauté, de violence, mais la violence qui te fait réfléchir, là, qui te fait te remettre en question. Moi, je pense qu'elle a une œuvre qui est incroyable et qui restera.
C'est beau d'entendre tous ces titres-là qu'on vient de passer comme ça à la suite. En 17 ans, votre voix, comment est-ce que vous l'avez vue évoluer, vous? Parce qu'elle a forcément changé.
Oui, ça change. Et puis surtout, moi, je fais partie des chanteurs et chanteuses autodidactes. Je suis arrivée, j'avais jamais appris à chanter. Je savais même pas comment ça fonctionnait. Et puis surtout, j'ai toujours eu des problèmes dès le début, dès la Nouvelle Star. Je sors de la Nouvelle Star, je me fais opérer parce que dès le premier prime, en fait, j'ai déjà plus de voix.
Oui.
Je comprends pas, en fait, comment gérer cette espèce d'animal que j'ai au fond de la gorge qui en fait un peu casse à tête. Et puis ça a été mon combat de tous les jours avec cette voix. Si je dors pas assez, je me sens pas bien.
Vous avez raconté d'ailleurs qu'après votre premier enfant, vous la reconnaissiez plus, votre voix.
Ah bah, surtout après deux à la suite. Moi, quand je suis allée voir le médecin de ma voix, ça s'appelle un phoniatre, j'étais persuadée qu'il allait me trouver une lésion, un kyste, quelque chose, parce que j'arrive plus, docteur. Et il me dit, ah non, vous avez des cordes vocales de bébé, tout va bien. Et donc, il m'a dit, ça doit être dans votre tête. Donc, je suis allée voir un psychologue. La voix, en fait, c'est tellement quelque chose de bizarre. Enfin, chanter, c'est quelque chose d'à la fois tellement miraculeux, puisqu'on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. Il y a une partie de mental qui prend tellement d'importance, et moi, je suis tellement hypersensible.
Au point de vous donner envie de tout arrêter? À un moment donné.
C'est pas pour ça que j'ai voulu tout arrêter. Oh non, non, non. À ce moment-là, je chantais plus du tout, donc c'était absolument pas par rapport à mon chant. J'ai voulu tout arrêter parce que j'étais persuadée qu'il fallait que je fasse un choix entre être maman et chanteuse, surtout.
En fait, non.
Aujourd'hui, j'essaye de me convaincre que non, chaque jour qui passe, parce que ça fait maintenant peut-être 2 ans que je suis revenue sur le devant de la scène en étant maman. C'est une grosse question de logistique, c'est un gros... c'est effectivement beaucoup plus fatigant et éreintant que quand on n'en a pas, mais je pense que ça, c'est le lot de toutes les mères et tous les pères.
Puis il y a aussi quelque chose, quand on chante depuis toute petite, quand chanter c'est son métier, quand le chant fait pour ainsi dire partie de soi, comment on sent quand on arrête de chanter?
Bah, moi, j'étais très malheureuse. En fait, le manque... des gens, le manque de la scène, le manque de chanter. Moi, à un moment donné, j'ai senti un énorme vide dans ma vie. Et j'ai dit non, je ne peux pas ne pas chanter.
Quand est-ce qu'elle est entrée dans votre vie, la musique, Amel Bent?
Elle est rentrée dans ma vie très très tôt. Moi, la musique m'a accompagnée dans la vie.
Puis il y a eu lui quand même.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon marbre en ce temps-là accrocher ces lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu la bohème.
Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez ça, la voix de Charles Aznavour qui nous a quittés il y a presque 3 ans, du moins ça faisait 3 ans exactement vendredi, le jour de la sortie de votre album, Amel Bent.
C'est incroyable, hein, le destin. C'est pas fait exprès, hein. Faut croire qu'il m'accompagnera toujours, toute ma vie, comme il m'accompagne depuis le début.
Ça fait quoi?
Moi, je suis toujours très émue quand j'entends Charles, parce qu'au-delà de l'homme qui a su m'accompagner dans ma carrière, puisque c'est quelqu'un qui m'a donné une place importante dans sa vie, et j'en suis aujourd'hui encore... Tellement reconnaissante et à la fois tellement choquée que ça puisse arriver. En fait, pour moi, chanter, c'était un jour rencontrer Charles Aznavour, donc voilà.
Parce que vous avez des images de votre enfance, de moments qui vous reviennent,
oui,
immédiatement.
Bah c'est ça, en fait. En fait, c'est tellement son œuvre, je le dis tout le temps de cette manière-là, parce que j'ai pas trouvé une plus belle formule, mais son œuvre, c'est la bande originale de ma vie, donc à chaque moment, depuis la toute petite enfance, il y a eu une chanson de Charles Aznavour, il y a eu la voix de Charles Aznavour, toujours à côté de moi.
Alors la bohème, c'était quand?
La bohème, c'est vraiment pendant la période des castings. La bohème, c'était la période où j'ai voulu changer ma vie. Donc, sa voix m'accompagnait, puisque je chantais cette chanson dans tous les castings, a cappella. Voilà. Il m'accompagnait, il était là. Et puis, c'est avec cette chanson qu'on m'a dit oui. Et puis c'est cette chanson que j'ai chantée après, pour la première fois avec un band, avec des musiciens. Voilà.
Si j'ai voulu chanter, c'est pour vous ressembler, que la vie soit moins vide. Et je sais désormais qu'on ne s'ennuie jamais à dire ce que l'on pense, mes amours, mes amis et mes emmerdes aussi, ont grâce à vous un sens. C'est un extrait de cette chanson qui s'appelait Charles, et que vous avez chanté au fond. Qu'est-ce que vous avez compris en écoutant Charles Aznavour, Amel Bent?
Oh, tellement de choses. Tellement de choses. C'était comme un ami, comme un professeur, comme un psychologue parfois.
Je me disais peut-être que le vécu, c'est matière à musique aussi.
Pour moi, la matière première de la musique, c'est le vécu. En tout cas, c'est comme ça que je le vois et que je conçois la musique. D'ailleurs, souvent, mes chansons qui n'ont pas fait mouche, souvent, c'est des chansons justement où j'ai un petit peu triché, où c'était pas totalement mon histoire. Je dis pas que les chansons sont moins belles, mais la vérité est moins vraie.
Vous qui avez chanté avec Charles Aznavour plusieurs fois, quel regard est-ce que vous portez sur la manière dont il travaillait avec les musiciens, avec ceux qui l'accompagnaient aussi?
Ah, je le trouvais tellement clairvoyant, tellement lucide. C'était pas du tout l'interprète qui arrive et qui se laisse porter. Non. Il avait le sens du détail. Il entendait absolument tout. Ça m'a rappelé, la première fois que j'ai chanté avec Aznavour, ça m'a rappelé quand j'étais allée voir This Is It de Michael Jackson. Ah. Je m'étais fait le lien. Je me disais quand même, finalement, les grands artistes, ce sont des gens qui n'ont pas peur d'aller voir le bassiste, d'aller voir l'ingé son ou l'éclairagiste, et puis de dire, moi je trouve que ça c'est... Parce que c'est pour moi des artistes qui ont compris que la star, ce n'est pas eux. La star, c'est la chanson et comment elle va être mise en valeur. Donc ils ont plus cet ego, et ils demandent aux gens qui les entourent de ne pas avoir cet ego-là, qui va empêcher de mettre en avant la star qui est la chanson. Donc on se met tous au service de cette chanson. Et ça, je trouve que c'est une des plus belles choses que j'ai apprises grâce à Charles Aznavour.
Il paraît qu'avant sa mort, Amel Bent, il vous a donné un conseil, justement, à Charles Aznavour. Qu'est-ce qu'il vous a dit?
Il m'a dit, quand un artiste a trouvé sa maison, il doit rester chez lui.
Alors c'est quoi votre maison?
Je pense que ma maison, C'est peut-être justement cette vision que j'ai de ce que c'est chanter. C'est ma définition du mot chanter. Parce que je crois que ma patte, elle est pas dans mes sonorités musicales, parce que j'ai trop d'influence, parce que je peux pas choisir. Je trouve que aussi tout miser sur de la technique, c'est bien dommage. Moi qui justement a eu tellement de mouvements vocaux, je dois dealer avec tellement de trucs, justement la grossesse, les machins, la fatigue. Enfin, je me sens pas du tout comme un robot, comme des cordes vocales sur pattes qui doivent avoir un rendement. Je veux pas être prisonnière de ça. Pour moi, le plus important, c'est ma définition du chant. C'est-à-dire que moi, ce que je veux, c'est te regarder dans les yeux quand je chante et je veux voir une émotion. Et ça veut dire que j'ai réussi mon job.
Mais pour autant, c'est difficile de rester fidèle à soi-même, de ne pas céder à la pression que peut parfois constituer le regard des autres. Qui est perpétuel quand on fait ce métier.
Moi, j'ai compris que quand je suis allée voir cette fameuse psychologue qui a fait de grandes études sur justement le lien qu'ont les chanteurs avec leur voix, parce que c'était ça le sujet de toute façon, elle me disait c'est un vieux fantasme qui date de depuis le jour où un chanteur ou une chanteuse est montée sur scène. On rêve de voir les artistes monter. Et puis après, on a le fantasme de les voir tomber. Donc on attendra toujours le moment où ils tombent. Oh, où ils sont plus comme avant, où ils ont perdu quelque chose. Depuis la Calas, on l'a vu avec Maria Carré, on attend le moment où ils font pas aussi bien qu'avant. Et en fin de compte, c'est quelque chose qui ne doit pas, pour moi, nous abîmer, nous atteindre en tant qu'artiste.
Oui, mais il y a aussi la pression de soi-même, la pression de son propre regard.
Ah, ça c'est encore une... Ça c'est soit on est comme ça, soit on n'est pas comme ça.
Vous êtes dur avec vous-même, vous ?
Moi, je suis extrêmement difficile avec moi-même. Moi, je suis, je pense, la personne la plus capable de me saboter alors que j'ai tout autour pour être bien. J'ai des mouvements dans ma tête émotionnelle, des idées qui me traversent et je peux me saboter en une seconde alors que j'ai travaillé comme une dingue. Moi, je suis une grosse travailleuse. C'est la seule chose qui me sauve, justement, de ces pensées qui sont tout le temps en train de m'assaillir de tout sur comment je vais faire et ça. Et est-ce que je chante ci, est-ce que je chante pas ça, ça c'était mieux, ça c'est nul, j'arrive pas, c'est nul. Quand on se répète tout le temps que ce qu'on va faire, c'est pas bien, de toute façon, on a quand même... 9 chances sur 10 de faire un truc pas bien. Et en fait, plus ça va, plus mon radeau, finalement, dans la tempête, c'est le travail. Je travaille tous les jours que Dieu fait. Tous les matins, je me réveille, je fais mes vocalises. J'ai compris, en fait, que le travail, ça allait être salvateur pour moi.
On va reparler de travail, d'exigence, de rigueur, de regard, de voix, de son, juste après le chant des colombes. Dernier extrait de votre nouvel album, Vivante. Vous êtes sur France Inter avec Amel Bent. Vous écoutez Boomerang. On est lundi.
Je me dis souvent, j'ai pas trop le choix. À quoi bon chercher si c'est comme ça? Un jour j'ai trop, un jour j'ai pas. Un jour de trop, un jour je sais pas. Un jour de plus et je m'oublie moi. Ce refrain qui m'emmène insouciante, je me rappelle un instant, j'oublie ma peine. À chacun de mes pas, moi je compte les heures. On se retrouvera dans la joie et sans peur. Je poserai mes pas dans un monde où les gens me répondent. J'entends le chant des colombes. À chacun de mes pas, je sais. À chacun de mes pas. À chacun de mes pas, j'essaie. À chacun de mes pas. Parfois dedans ça devient si sombre. Je prends sur moi, je sens que ça gronde. Comment rêver sans trop d'espoir? Comment grandir sans même savoir? J'étais sûre qu'il suffisait d'y croire. Ce refrain qui m'emmène insouciante, je me rappelle un instant, j'oublie ma peine. À chacun de mes pas, moi je compte les heures. On se retrouvera dans la joie et sans peur. Je poserai mes pas dans un monde où les gens me répondent. J'entends le chant des colombes. À chacun de mes pas, je sais. À chacun de mes pas, je n'ai pas, je n'ai pas. À chacun de mes pas, j'essaie. À chacun de mes pas, je n'ai pas, je n'ai pas. À chacun de mes pas, j'essaie. À chacun de mes pas, je n'ai pas, je n'ai pas. À chacun de mes pas, je sais. À chacun de mes pas.
France Inter.
Augustin Trapenard.
Voilà, quelque chose de la diva, hein, quelque chose de Whitney, de Maria, de Madonna, mais en plus sympa. Le cheveu Stade de France, l'épaule tango, l'œil cœur sur la main, elle vous donne aussitôt l'envie de l'appeler par son prénom et de la convier à votre prochaine pyjama party avec sa chemise aujourd'hui aux allures de pyjama, la chanteuse Amel Bent.
Merci Invitez-vous beaucoup.
Vous me rendez, c'est un compliment pour moi. Ce matin, pour parler de musique, d'arrangement, de son aussi sur ce disque, quels sons justement est-ce que vous avez cherché à faire exister en particulier?
Alors sur cet album, j'avoue que j'aime bien dire que c'est le premier depuis le premier. C'est-à-dire que je suis partie avec la même liberté, peut-être, qu'un premier album. Un premier album, on a tout à gagner, rien à perdre. On sait pas trop ce qu'on veut faire. On a comme background et comme expérience finalement presque rien. Ces sonorités, on sait pas vraiment là où on va être plus à l'aise, ni très exactement ce qu'on va devoir donner. On s'accroche à ces quelques certitudes. Moi, mes certitudes, c'est que je sais ce que j'ai envie de chanter dans le fond. Je sais les thèmes que je veux aborder, je sais les mots que j'aimerais dire, les mots que je ne veux absolument pas dire. J'ai des exigences qui sont finalement beaucoup plus sur le fond et presque même le texte. Et je veux surtout être dans des zones où je me sens bien.
À vous entendre, c'est comme si vous aviez réappris à lâcher prise avec cet album, à plus chercher à atteindre la perfection.
J'allais en venir. En fait, avec cet album, j'ai dû retrouver... Enfin, j'ai même pas dû, ça s'est fait tout seul. C'est que j'ai retrouvé le lâcher-prise qu'on peut avoir quand on fait un premier album.
Quand est-ce que vous savez qu'une chanson est finie, Amel Bent?
Bon, y a un côté presque chamanesque dans tout ça. Hein. Moi, c'est très physique. Hein. C'est quand j'ai les poils, quand... Je déteste cette expression quand j'ai les poils, mais bon, on le dit parce que voilà.
Oui, puis elle est très graphique. Hein.
Ouais, c'est pas c'est pas dingue. Hein.
Après, il y a des gens qui ont plus de poils que d'autres. Moi, par exemple, quand j'ai les poils, ça se voit vraiment. Enfin, bon, c'est un autre sujet.
c'est physique. C'est censé, à un moment donné, de toute façon, je suis censé me visualiser sur scène. Je suis censé me visualiser sur scène avec une chanson, puisque ces chansons, de manière, elles sont vouées à être chantées sur scène en live. Donc, si à un moment donné, je me visualise pas sur scène avec une espèce de sensation à l'intérieur de mon corps qui fait que je le sais. C'est une chanson que je vais devoir chanter, donc il faut qu'elle soit sur ce disque. Ça va pas vraiment plus loin que ça, en fait.
Vous savez, moi, ce qui me frappe à l'écoute de ce disque, c'est quand même encore et toujours la mélancolie, la tristesse, hein, qui semble ne pas vraiment guérir avec les années. Je pense à des titres comme « Ma peine »,« Ça fait mal » ou « Chaos », où vous parlez d'un désespoir ordinaire. C'est beau, quand même, le désespoir ordinaire. Le vôtre, il vient d'où? Vous avez fini par le savoir?
Je reparle de la psychologue. Je l'ai vue deux fois, hein, vous savez. Elle m'a vraiment bouleversée. C'est pour ça que j'y vais plus, d'ailleurs. Elle m'a dit que j'étais un soleil noir. C'est-à-dire que j'ai un truc qui brûle au fond de moi et qui est pas un soleil tout court. C'est un soleil noir.
Il arrive que ce désespoir ordinaire, il vous mette chaos.
Souvent. Mais heureusement, aujourd'hui, j'ai plein de choses qui me relèvent très, très rapidement. En tout cas, je peux plus du tout alimenter cette sensation de mélancolie, de tristesse. J'ai plus le temps, en fait. Parce que quand on a des enfants, quand on est marié, on est beaucoup moins, en tout cas, dans cette solitude.
Et dans quelle mesure la musique, ça peut être un antidote aussi au désespoir, à l'anxiété?
Ah ben, c'est ce que me disait la psychologue. Elle me disait qu'en gros, si j'avais pas la musique pour exprimer tous ces trucs que je ressens, ben, je serais sûrement une personne très triste. Mais moi, je suis pas quelqu'un de triste.
Mais vous le saviez, ça, de toute façon, vous avez pas tout vu la psychologue, vous saviez que la musique avait ce pouvoir.
Ça, je savais que la musique avait ce pouvoir. Sauf que ça fait toujours bien de l'entendre de manière presque scientifique, de dire est-ce que c'est vraiment la personne que je suis. Et oui, je pense que profondément et jusqu'à la fin de mes jours, je serai une personne éperdument mélancolique et qui peut très vite se laisser aller au spleen et puis bon voilà. Mais je suis aussi, j'ai la chance d'avoir un exutoire merveilleux, j'ai la chance de pouvoir partager cet exutoire avec d'autres gens qui sont comme moi, parce que quand un jour vous viendrez me voir en concert, vous verrez qu'il y a que des soleils noirs hein, dans la salle. Ils viennent tous pour pleurer. Ils viennent tous pour pleurer avec moi.
Et pour chanter, viser la lune, ça, faites-moi confiance.
Et il y a quand même, voilà, toujours, je pense aussi, ce besoin d'exprimer aussi cette force, cette croyance absolue qu'il y a de la lumière au bout de tout ça, et qu'on va s'en sortir et qu'on va finir debout. Ça, c'est le deuxième truc aussi en moi. Donc c'est une espèce de bataille, voilà.
Mais vous ressentez quoi quand vous chantez?
C'est trop bizarre ce que je vais dire. En fait, quand je chante... Ça me fait tout le temps la même chose depuis la première fois, hein, depuis la cour de récréation de la primaire. J'ai toujours l'impression que c'est la première fois que je découvre un truc. Peut-être parce que j'ai pas appris aussi et que rien que la mécanique du chant, en fait, elle me bouleversera toujours. Le fait de produire un son, déjà, un espèce de truc qui vibre comme ça, une fréquence dans l'air, c'est comme des petites étoiles qui sortent. C'est un truc qui me bouleversera toujours, déjà, avant même de l'avoir partagé. Et puis alors, voir ces petites étoiles aller toucher quelqu'un en face et de voir une réaction, c'est le deuxième truc qui me bouleversera toujours. Donc déjà, à chaque fois que je chante, c'est toujours comme si c'était la première fois. Et je chante aussi bizarrement, mais ça c'est mon côté justement peut-être un peu drama queen. J'ai toujours l'impression que c'est la dernière fois. C'est-à-dire que je serai jamais blasée de chanter. Je pourrais avoir objectivement un jugement, me dire j'ai été à chier, c'était super, voilà, j'arrive à avoir du recul sur ce que j'ai produit. Mais par contre, jamais je serai blasée de chanter. C'est comme ça, c'est physique.
Au fond, qu'est-ce qu'elle raconte, votre voix ?
Franchement, ma voix, je pense qu'elle dit tout. Ça se voit quand je suis fatiguée, ça se voit quand je suis triste, ça se voit quand je suis en forme, quand j'ai la pêche. C'est pour moi, je dis pas que c'est une extension de moi parce que je la considère vraiment, ma voix, comme une entité à part entière, puisqu'elle fait pas tout le temps ce que je veux non plus. Mais j'aime bien ce côté mystérieux, cette relation que j'ai avec elle. Par exemple, tout de suite, là, je vais vous chanter des chansons.
Des chansons ?
Oui, je vous expliquerai après.
Mais je veux bien savoir.
Je vous expliquerai après. J'ai répété évidemment beaucoup, j'ai beaucoup travaillé pour vous faire honneur, parce que je suis heureuse d'être là et de cette invitation. C'est ma première, moi, ouais, chez vous. Et donc j'ai beaucoup travaillé. Mais même avec toute cette tonne de travail, je vous le dis, je suis incapable de vous dire ce qui va sortir de ma gorge. Je sais pas. Je vais vous regarder, sûrement. Ouais. Parce que j'ai besoin de m'appuyer sur ce que je trouve le plus sûr, c'est-à-dire un autre être humain.
Oui.
Et puis, je vais essayer de puiser dans vos énergies à vous. Et selon ce que vous allez me renvoyer, je ferai ce que moi j'ai à faire.
Zéro
et
pression.
Elle fera ce qu'elle a à faire.
Zéro pression pour moi.
C'est aussi simple que ça.
J'ai envie qu'on l'entende, là. J'ai envie qu'on l'entende, cette voix, pour terminer cette émission que vous avez choisie. Ben, je sais pas ce que vous avez choisi.
Alors, en fait, je vais vous faire un petit bout de deux chansons.
Ok.
Parce que, comme à l'image des créations de mes chansons depuis le début, j'arrive jamais vraiment à me décider sur est-ce que je pars plutôt vers quelque chose de variété ou alors plutôt vers quelque part un peu plus dans l'urbain où voilà, mon cœur est un peu séparé en deux. Et j'ai toujours du mal à choisir. Du coup, je me fais le luxe de ne pas choisir et de vous faire les deux chansons que j'avais préparées et pour lesquelles j'ai pas su choisir.
Vous avez tous les droits. On peut dire peut-être que vous êtes accompagné par Lucas Bijaoui au piano et par Mathias Végy au violoncelle, Amel Bent, carte blanche. C'est à vous.
Merci beaucoup. Mike Brandt, dis-lui.
Formidable.
Dis-lui, fais ça pour moi, dis-lui, que le jour sans lui me semble moins long. Dis-lui, quitte à mentir, dis-lui que je réalise qu'il avait raison. Dis-lui qu'à nouveau j'aime vivre, que je ne suis plus seule. Déjà qu'il n'est plus rien pour moi. Dis-lui, 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 n'importe quoi.
Oh là là. Il faut dire que c'est une chanson de Dario Moreno et Lulu Gasté, reprise des milliers de fois, notamment en anglais sous le titre Feelings. Mais on a une deuxième surprise pour les auditeurs et les auditrices de France Inter.
Eh oui, j'ai eu envie aussi d'interpréter une chanson de l'artiste qui s'appelle Clandestine. Voilà, dont j'ai eu un vrai coup de cœur pour le texte et la mélodie et j'avais envie de la vivre différemment que dans sa version originale et dans ses versions qui existent aussi un peu. Il y a une version un peu deep house que j'aime beaucoup, que j'ai écouté beaucoup cet été aussi. Et voilà, on a voulu vous en faire une à nous.
Non mais là, c'est Noël, le 14 juillet à Euro Disney, Amel Bent, Clandestine à l'artiste.
Tu m'as
trouver, assise toute seule comme dans le vide. L'air triste tournait et ça tombait bien, t'as les épaules solides. Un peu de réconfort, je te parle et t'apprends à quel point j'ai souffert. Je suis une enfant de la guerre qui cache ses sentiments des milliers de pieds sous terre. La cocaïne a pris ma famille. Je suis qu'une clandestine. Aime-moi, prends-moi dans tes bras, je n'ai plus personne. Ne laisse pas ton odeur imprégner mes draps si tu m'abandonnes. Je suis pas celle que tu crois, aucun cabron ne m'a touchée. À part toi, caballero, personne ne m'a touchée. Et t'as bu mes paroles quand je t'ai parlé d'eux. T'as bu mes parents, t'as bu mes paroles, t'as bu mes paroles, t'as vu mes parents. Un jour le feu a pris leurs âmes parce que d'autres l'ont décidé. Pour que des gringos tapent dans la cam, on sacrifie des destinées. C'est la cocaïne qui a pris ma famille. Je suis qu'une clandestine à Paris. Je lui ai dit aime-moi, prends-moi dans tes bras, je n'ai plus personne. Ne laisse pas ton odeur imprégner mes draps si tu m'abandonnes. Je suis pas celle que tu crois, aucun cabron ne m'a touché.
J'ai les frissons partout. Il faut dire qu'elle vous regarde pendant toutes les chansons. Amel Bent, la classe. Lucas Bijaoui au piano. Mathias Végie au violoncelle. C'est dans Boomerang. Évidemment, merci tellement, Amel, d'être venue faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que Vivante, votre septième album, vient de paraître. Merci aussi à Mathias Alléon et Pauline Laverdure, qui étaient à la technique ce matin. Il est 9h40 sur France Inter. Et c'est l'heure des médias avec Sonia De Villers. L'instant M, ça va, Sonia?
Ça va bien, Augustin. Salut, à demain.